Comment les optimistes voient-ils le monde? Quelles qualités cultivent-ils? Comment s'entourent-ils?
Les risques, en réalité, on ne les prend que parce qu'on est optimiste sur leurs résultats. Ce ne sont quand même pas des risques inconsidérés, jamais.
Very Good Vibes, un podcast Men's Up. 100% optimiste, 100% énergie.
Bonjour, cette semaine dans Very Good Vibes, encore une nouvelle aventure entrepreneuriale qui vous tire vers le haut. Aujourd'hui, on rencontre Philippe Carré, le fondateur, entre autres, de sonvideo.com, leader dans la distribution de matériel Wi-Fi sur Internet en France.
Christelle Cronier.
Bonjour Philippe.
Bonjour Christelle.
Vous êtes un entrepreneur dans l'âme, si j'ai bien compris, parce que vous avez commencé très tôt, même en parallèle de vos études.
Absolument, oui. Tout à fait. Pendant les études, on avait l'obligation de faire des projets extra-académiques. C'était une grande idée, en fait, de notre école. Bon, il y en a beaucoup qui le font. Et donc, soit on faisait le BDE, la bibliothèque, et nous, on a plutôt, avec mon associé déjà de l'époque, sur une association, développé un petit business pour organiser les soirées étudiantes des écoles, de notre école et de toutes les écoles de commerce, en fait, de la région parisienne. C'est comme ça qu'on a commencé.
Est-ce que l'optimisme, c'est quelque chose d'important quand on veut entreprendre ?
Oui, résolument, parce que d'abord, pour être entrepreneur, je pense qu'il faut être un petit peu...
Un peu fou,
ouais, voilà, à la limite fou, exactement.
C'est ça,
dangereusement optimiste, j'utilise souvent ce terme-là, parce qu'il faut pouvoir prendre des risques. Les risques, en réalité, on ne les prend que parce qu'on est optimiste sur leurs résultats. Ce ne sont quand même pas des risques inconsidérés, jamais. Et bah, l'optimisme, oui, c'est certainement le fuel qui nous permet d'avancer et qui permet de cette petite folie et de créer de nouvelles choses, puisqu'en fait, souvent, quand on est entrepreneur, on essaye de créer des choses qui n'existent pas ou de les faire différemment. En tout cas, et c'est ce qui nous permet d'avancer. En tout cas, nous, ça a été clairement le cas, puisqu'en plus, on était au début du e-commerce et il y avait tout à inventer, puisqu'à l'époque, pour vous citer un exemple, il y avait encore pas de, on ne trouvait pas de logiciel pour faire un caddie, un panier, vous voyez, de e-commerce. Ça n'existait pas. Il fallait développer de zéro, quoi. Donc, c'était très intéressant. On partait vraiment de la feuille blanche, du HTML.
Et qu'est-ce qui vous a poussé comme ça? Qu'est-ce qui vous a donné la force d'entreprendre? Est-ce que dans votre famille, il y a beaucoup d'entrepreneurs?
Alors, en réalité, oui, c'est assez marrant, mais parents ne le sont pas.
Ouais.
Mon père a travaillé dans l'industrie et ma mère aussi. En revanche, je nourris cette passion de l'entrepreneuriat, je pense, de ma grand-mère qui était quelqu'un qui entreprenait beaucoup. Même juste après-guerre, ils ont créé une société avec mon grand-père, ils ont fait plein de choses et puis elle m'a toujours poussé au maximum. C'est peut-être de là quand même que vient la fibre. Ouais. Il va y avoir un petit peu de ça quand même. J'étais très admiratif d'elle et je pense que derrière, ça m'a beaucoup poussé depuis le départ. Et en fait, c'est assez amusant parce que je crois que quand on est entrepreneur dans l'âme, on l'est vraiment, parce que moi, j'ai ma seule activité professionnelle.
Jamais salarié.
Ouais, parce que pendant mes études, j'ai travaillé chez Disney, par exemple, vous voyez, à l'ouverture du parc à Paris et dans des fast-food, évidemment, comme tout le monde. Mais c'était pour gagner ma vie. Et ensuite, Disney nous a proposé, alors que nous étions en troisième année d'école de commerce, c'était une année d'école en quatre ans, d'intégrer, alors qu'on avait vraiment un super poste, puisqu'on pouvait être land manager, donc manager de tout un land du parc.
Ouais.
Et on n'a pas pris parce que, en fait, ça nous amusait plus de continuer notre école d'abord, mais ensuite de devenir entrepreneur. C'était plus important que de trouver un job au final. Et puis bon, bah, après, ça s'est enchaîné, quoi.
Vous n'avez pas eu peur de vous lancer?
Si, bien sûr.
De mettre de côté comme ça la sécurité
Ouais, des inquiétudes, on en a. Et en revanche, il y a une chose très importante. J'ai rencontré le père d'un ami de l'école, d'ailleurs, qui n'était pas associé dans nos affaires, mais qui était entrepreneur et que j'admirais beaucoup. Il avait fondé une très belle société de leasing automobile qu'il a vendue à Hertz, d'ailleurs. Et je me suis permis de demander à son fils de le rencontrer et je lui ai proposé comme ça. Je lui ai dit, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille d'abord travailler dans l'entreprise et prendre de la connaissance de la façon de travailler ou directement créer ma boîte? Et il m'a répondu une chose très intelligente. Il m'a dit, l'avantage que tu as aujourd'hui, c'est que si tu crées ta boîte, tu te plantes, de toute façon, tu as un niveau de vie étudiant et pas de famille à gérer, donc c'est très facile. Et il y a de fortes chances que si tu rentres dans une grande entreprise et que tu gagnes bien ta vie, que tu crées une famille, bah derrière, tu ne feras plus entrepreneur parce que ça sera trop dangereux. Et je pense qu'il avait totalement raison. L'avantage, quand on est jeune et qu'on a une vie étudiante, on n'a pas beaucoup de besoins. Et donc, on peut prendre des risques qui ne sont pas graves parce que, ma foi, à la limite, au pire, on recherche un job et puis l'affaire est terminée, quoi. Bon, puis après, ça s'est passé comme ça s'est passé, lentement, bien sûr, mais on s'en est sorti, quoi. Donc, tant mieux.
Vous étiez un passionné de son, en fait, au départ, vous étiez ingé son?
Ouais, oui, tout à fait. En fait, parallèlement aux études qui n'étaient pas du tout dans ce domaine-là, j'ai appris sur le terrain, en fait, le métier d'ingénieur du son, par passion de la musique avant tout, et puis du son professionnel ensuite, des studios, des tables de mixage, etc. Ça me faisait rêver, j'étais toujours à traîner là-dedans, et j'ai eu beaucoup de chance quand j'étais au collège, mon échange en Angleterre, peut-être mon prof était sympa avec moi aussi, mais il m'a envoyé chez le producteur de Kate Bush et du coup j'ai passé ma semaine pas avec mon correspondant mais avec son père dans le studio. Enfin voilà, j'ai eu des rencontres comme ça et c'était vraiment ma vraie passion. Et puis j'ai rencontré, grâce à cette passion pour l'audio professionnel, quelqu'un qui est devenu mon associé pour créer sonvideo.com, qui était journaliste de formation, qui avait monté un centre de formation sur le multimédia parce qu'il était aussi formateur. et qui lui était passionné de hi-fi, donc plutôt audiophile que pro, mais les deux mondes bien sûr se rejoignent énormément. Et il m'a transmis cette passion pour la hi-fi et on a créé ensemble son vidéo.com avec son côté journaliste et mon côté, on va dire, plus école de commerce, donc business, quoi.
C'est important quand on crée une boîte comme ça de savoir de quoi on parle.
En tout cas, pour nous, je le crois, parce que aujourd'hui, au sein de l'entreprise Son Vidéo, tous les gens qui sont dans nos boutiques, qui sont nos conseillers, qui sont nos rédacteurs, qui sont nos graphistes même, sont des passionnés de ce métier. Et nous, on a construit notre entreprise autour de la passion. Et on embauche des gens passionnés. Il y a quelques jours, voyez, on vient de recruter quelqu'un qui sort d'une grosse école de formation d'audiovisuel, très connue, et qui voulait faire du studio, mais qui s'aperçoit qu'il y a d'autres métiers dans l'audio. Et on a la chance d'attirer ces passionnés avec nous. Et autant c'est important pour nous, pour l'équipe, pour l'esprit de famille que ça peut créer, puisqu'on est tous autour d'une passion, mais aussi pour nos clients qui se rendent bien compte que quand ils appellent chez nous, ils ne tombent pas sur un robot ou quelqu'un qui a été formé par un formulaire, mais de l'humain qui parle de sa passion et qui la transmet au passage. Enfin, en tout cas, nous, c'est le fondement de notre entreprise dans son ensemble.
Vous avez su sentir le vent aussi, parce que vous êtes positionné sur les produits haut de gamme. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises comme vous qui, finalement, se sont cassées la figure. On peut citer Pixmania, ouais, ou des entreprises comme ça qui...
Tout à fait, les Nomatica qui étaient énormes, ouais, quand on a commencé. Alors,
comment ça se fait que vous avez réussi à durer, en fait?
Alors déjà, je pense que notre brief d'origine, c'était le fait de rendre du conseil. En fait, c'était comprendre pour choisir notre thème. En fait, c'était dire que quand on achète un jouet, puisque ce que nous vendons sont finalement des jouets, hein, il n'y a pas d'utilité vraiment, à part se faire plaisir, il faut donner envie, il faut aussi transmettre sa passion et puis aider dans le choix du jouet. Et donc ça, c'était notre idée. C'est aussi une idée qui vient de assez ancienne en France, si on regarde les guides qui étaient faits par la Fnac, une très belle enseigne qui avait inventé ça, qui ensuite a choisi de changer un petit peu de direction. Mais je dirais que nous, on a peut-être repris ce flambeau un petit peu du conseil au client de haute qualité et en confiance pour le client, qui n'est pas juste un conseil parce qu'il y a une marge plus importante ou un prix intéressant pour l'entreprise.
Mais ça veut dire que des entreprises comme Pixmania, etc., n'étaient pas positionnées là-dessus?
Non, eux, ils ont pris le train du e-commerce, qui d'ailleurs, ce train nous a amené les clients de toute façon, puisque les gens ont d'abord, au départ, consommé sur Internet parce que c'était moins cher.
Ouais.
En tout cas, ils avaient l'impression que ça l'était. Et des grosses entreprises comme celle-ci se sont développées sur le discount. Il y en a d'autres qui ont réussi, comme Cdiscount, par exemple. Mais Cdiscount ne vend pas que du produit électronique grand public. Et il y a des produits où les marges sont plus confortables et permettent de faire du discount, certainement. On le voit aussi dans des métiers comme l'optique, où il y a des marges très importantes. Dans le métier de l'électronique grand public, nos marges sont très serrées. Donc, c'est très difficile de faire du vrai discount. On peut faire, bien sûr, des opérations promotionnelles très, très intéressantes pour nos clients, mais c'est plutôt en négociant avec les fournisseurs et en permettant d'abaisser le prix par une quantité importante d'achats et donc donner un prix.
Mais aussi en maîtrisant la chaîne de fabrication, si j'ai bien compris, parce qu'après, vous êtes ouvert
ensuite,
à plein d'autres choses.
Et l'autre solution, ça a été pour nous, pour proposer de bons produits bien adaptés à notre clientèle et au marché, de créer une entreprise dans le groupe qui fabrique, elle, des produits d'audio-vidéo. On a créé des marques, on en a racheté certaines.
AV Industries.
AV Industries est une société de fabrication qui appartient au même groupe, qui n'est pas la même société que Son Vidéo, mais qui est une société de sœurs, qui, elle, ne fait que de la conception et fabrication de matériel d'enceintes, de radio, d'écrans de projection, de meubles télé, meubles hi-fi, et qui les vend...
Hearthstone aussi, que vous avez...
Hearthstone, ce sont les meubles et les accessoires, les câbles, les supports muraux. Tous ces produits-là sont conçus et fabriqués par nos équipes, qui sont différentes de Son Vidéo, mais ce sont des équipes aussi de passionnés, mais là, pour la production, avec des ingénieurs mécaniques, des designers, une équipe complète, et puis de la fabrication, que ce soit alors beaucoup en Asie du Sud-Est, puisque notre industrie fait qu'une majorité des produits sont fabriqués en Asie du Sud-Est, mais aussi depuis 2 ans, en France, où nous avons recréé une usine, en fait.
Vous avez aussi comme marque Lumen qui fait les écrans de projection.
Oui, Lumen, c'est le leader en France de l'écran de projection pour le home cinéma, par exemple. C'est aussi le leader en Espagne, notamment, et bientôt, je pense, dans un troisième pays d'Europe. Alors, nos produits sont conçus 100% en France, fabriqués en Asie ou en France, et vendus en France chez les distributeurs, quels qu'ils soient. Son Vidéo en fait partie, mais nos produits sont également vendus chez nos confrères, mais également à l'export dans à peu près 50 pays.
Et Island Audio aussi, qui fait des enceintes acoustiques.
Voilà, Island, c'est la première marque d'enceinte que nous avons créée. Oui, tout à fait, avec mon associé de l'époque, dont je parlais tout à l'heure. Oui, c'était les premières enceintes que nous avons fabriquées, c'était Island. Aujourd'hui, on fabrique Tangent, qui est une marque danoise qui nous appartient aussi, même si elle est basée au Danemark, mais elle appartient au groupe. Eltax, une marque danoise de bas de gamme. Et puis Ellipson, la plus belle marque d'enceinte à mes yeux en France, même si nous ne la portons que depuis 10 ans, mais c'est la plus vieille marque d'enceinte française. Donc on a cette chance de porter cette histoire à laquelle nous devons faire attention en plus, puisqu'on ne l'a pas créée et on se doit de la porter.
Vous avez racheté aussi une société qui est spécialisée dans la domotique haut de gamme.
Alors nous, on a créé cette entreprise en fait, où nous concevons un logiciel de domotique.
Connecting Technology.
Tout à fait. C'est une société qui est basée à Paris, avenue de Friedland, où nous avons un espace de démonstration, mais aussi de recherche et développement. Où là, nous créons un logiciel de domotique. Pourquoi la domotique ? Parce qu'autour de notre univers, la domotique, c'est un secteur en forte croissance, où il y a encore beaucoup à inventer parce que les logiciels, il y en a peu. Et on a décidé de développer notre propre logiciel parce que ça nous passionne aussi, hein, faut reconnaître, avec un autre associé qui s'occupe de ça et qui lui est passionné de logiciels et de domotique depuis une vingtaine d'années.
Mais où allez-vous vous arrêter ? Vous n'avez pas peur de vous éparpiller, en fait, avec plein d'idées comme ça dans tous les
sens ?
C'est
vrai qu'on s'éparpille un petit peu, mais sans vraiment s'éparpiller, puisque vous remarquerez qu'en tout cas, toutes ces entreprises et tous ces projets sont absolument toujours autour du même thème central, qui est le loisir audio-vidéo à la maison. C'est quand même notre thème central et on ne s'en écarte pas. Après, les journées sont variées, puisque entre la fabrication, la production, le bureau d'études, la logistique, le commerce, le e-commerce, l'informatique, puisque nous avons du coup dans le groupe une quinzaine d'informaticiens pour développer nos logiciels, des développeurs. Donc c'est intéressant, mais c'est ce qui fait, je pense, la passion aussi d'un chef d'entreprise, c'est de pouvoir voir plein de choses différentes éclore. Et puis une équipe grandir, puisqu'en tout, vous voyez, ça représente aujourd'hui 160 personnes, donc c'est assez passionnant.
Vos sociétés marchent très bien. Ça a toujours été comme ça. Tout a toujours été rose depuis le départ. Aucun risque, tout va bien.
Non, on a eu bien sûr pas mal d'événements compliqués. Et encore dernièrement, pour par exemple AV Industrie, vous voyez, c'était le leader du meuble télé.
Ouais.
Le meuble télé en magasin spécialisé a quasiment disparu. Et donc, on a perdu plus de 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, ça a été énorme. Nous avons vécu 5 années très difficiles. On s'en sort maintenant, donc je peux en parler avec le sourire. Il y a eu ça. Il y a eu le début de son vidéo. C'était une start-up dans le e-commerce. Le e-commerce, à l'époque, n'était pas facile à financer. En plus, on était juste après la crise, en 2001, la crise du e-commerce. Enfin, des start-up, on va dire. On avait perdu tous nos fonds propres en 2 ans, vous voyez. Donc, heureusement, nos banques ne nous ont pas lâchés. Et puis, on est reparti. En revenant d'ailleurs à notre brief de départ, c'est peut-être important de le souligner parfois, justement là on ne s'est pas éparpillé, notre brief de départ qui était la qualité, le conseil, vous voyez on s'était un petit peu éparpillé en allant vers la vidéo, le caméscope et l'appareil photo numérique parce que justement des énormes entreprises comme Homatica nous faisaient rêver tous les e-commerçants et on n'aurait pas dû parce qu'il n'y avait pas d'argent à gagner, c'était très très compliqué, ce n'était pas notre métier, on n'était pas référent sur ces domaines de la vidéo.
Donc finalement, faut pas, quand on est entrepreneur, il ne faut pas trop pivoter, il faut rester sur ses idées de départ, c'est ça que vous me dites ?
J'en suis certain, parce que nous, c'est comme ça que chaque fois on est sorti d'affaires. Dans tous les cas, on s'est recentré sur notre métier d'origine, on a regardé froidement qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas, on a abandonné des pans de l'entreprise et on l'a sorti d'affaires. Donc je crois qu'il faut savoir aussi des fois fermer des branches qu'on a ouvertes peut-être en s'éparpillant, comme vous disiez tout à l'heure, et revenir aux fondamentaux. Et alors généralement, on s'en sort, puisque si on est sur des fondamentaux qui étaient bons, ils sont toujours bons et il faut se recentrer parfois. Oui.
Vous avez des croyances qui vous aident à avancer depuis le départ ?
Je crois fondamentalement en nos équipes, en l'humain, ça c'est certain. Je dis souvent, je répète à toutes nos équipes, dès que je le peux, que la réussite d'une entreprise comme la nôtre, et comme toutes les entreprises à mon sens, ce sont avant tout les hommes qu'il y a dedans, et hommes et femmes évidemment. Et ça c'est fondamental je crois, parce que du coup j'ai la chance d'avoir une équipe très soudée, sur qui je peux compter, même dans les moments difficiles, et c'est ça la valeur d'une entreprise. Après, bien sûr, la marque existe, c'est une chose, les marques de produits existent, c'est évident, mais ce qui fait avancer l'entreprise, c'est la qualité de ses équipes et l'investissement personnel que chacun peut donner à l'entreprise, parce que s'il s'y sent bien, il est prêt à y travailler avec conviction et les clients le ressentent.
Vous avez un autre truc aussi, le scooter.
Oui, le scooter.
C'est votre truc d'entrepreneur.
Mon associé d'origine, il appelait ça les réunions scooter quand on s'appelait le matin parfois et que j'étais entre la maison et le bureau, parce que c'est vrai que j'aime bien être dehors le matin, à l'air libre, avec la réflexion libre aussi, parce que la nuit a porté conseil et on n'est pas encore dans le flot de l'action de la journée. Et ces moments-là, le matin tôt, sont très importants avant d'arriver au bureau. C'est vrai, c'est très, très important.
Vous listez dans votre tête, en fait, toute la journée.
Oui, voilà, qu'est-ce qui s'est passé la veille, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer, quels sont les sujets sur lesquels il faut se concentrer parce qu'ils sont importants et il faut les régler, les points importants de la journée, toutes les réunions. Et puis, c'est très important, je pense, de clarifier tout ça dans son cerveau le matin pour que ce soit clair un petit peu, une bonne partie de la journée, au moins que ça reste clair, le plus longtemps possible.
En dehors du scooter, quel est votre conseil vraiment concret en fait pour envoyer des very good vibes?
Moi, je crois beaucoup, vous l'avez compris, vous l'avez rappelé, à la création d'entreprise. Je pense que chacun qui a la moindre fibre pour entreprendre doit le faire parce que c'est très important d'abord de développer des entreprises puisque plus on crée d'entreprises, plus on crée de valeur et donc plus on crée de marché et plus on crée d'entreprises derrière. Et la création d'entreprise, c'est un élément très important aussi pour créer de l'emploi et on en a besoin. On a besoin de retrouver de l'emploi pour toutes les couches de la population. Je crois très, 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 très dur à ça aussi. On a beaucoup laissé sur le côté des gens qui n'avaient pas forcément le niveau de formation acquis pour être dans ce qu'on appelait, vous savez, l'école blanc. À l'époque, on appelait ça l'école blanc et que du service. Ça n'existe pas. Il n'y aura jamais que du service et Dieu merci. Vous voyez, nous, on s'efforce de réouvrir des lignes de production en France. On a notre logistique qui est très importante ici. J'espère que, voilà, tous ceux qui ont la moindre volonté de créer quelque chose dans l'entreprise le fassent parce que faut se lancer, faut essayer parce que c'est très important pour tout le monde, en fait, pour tout le monde qui est autour.
Est-ce qu'il reste de la place dans le e-commerce, votre domaine ?
Notre domaine n'est pas un domaine très simple parce que, en gros, la barrière à l'entrée dans notre industrie est assez haute parce que nous sommes d'abord des e-commerçants avec du stock. Alors déjà, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se créent avec un grand succès dans l'intermédiation. On peut citer des Mano Mano qui sont des entreprises extraordinaires créées en quelques années. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas le stock à gérer, même si maintenant, ils font de la logistique, mais a posteriori. L'inconvénient d'un métier comme le nôtre, c'est la logistique qui va derrière. Donc l'infrastructure métier est assez importante et puis elle nécessite des stocks qu'on doit porter, donc un investissement financier important. Donc ça, c'est une barrière à entrer. En revanche, par contre, je crois sincèrement qu'il y a tout inventé dans l'e-commerce. Ça n'a que 20 ans ou 22 ans, le e-commerce, donc c'est vraiment un bébé encore, un jeune en tout cas. Je pense qu'on n'a pas vu encore beaucoup de choses dans l'e-commerce, dans tout ce qui peut être fait. Les derniers exemples, comme celui que j'ai cité, sont de bons exemples, comme quoi rien n'avait été fait dans le bricolage, mais certainement que nous, dans notre métier, on a 2-3 idées qu'on va développer parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'existent pas. Comme par exemple, aujourd'hui, on le voit dans le textile, mais ça n'existe pas dans notre métier d'électronique grand public, il n'y a pas une vraie offre pour revendre son matériel.
Ah oui.
Et les passionnés dans notre métier, souvent...
Vous êtes le Gibert du matériel IFI.
Par exemple, voilà, ouais. Parce que les gens changent beaucoup de matériel parce qu'ils sont passionnés. Donc il y a toujours le dernier ampli, la dernière enceinte, le dernier câble. Mais finalement, ils ne vont pas tout garder. Et s'il y avait un vrai moyen de céder ces produits et peut-être de permettre à des gens qui n'ont pas les mêmes moyens que de se faire plaisir par les acheter d'occasion, je crois que là aussi, on tient un marché important. Et dans l'e-commerce, bien entendu, puisqu'aujourd'hui, c'est tellement plus facile de le faire sur le web que ça paraît une évidence. Mais ça n'existe pas vraiment. Donc, vous voyez, ça fait parmi des idées sur lesquelles nous travaillons actuellement. Et puis, l'expérience client, aujourd'hui, on a une association entre le e-commerce, nous, et le téléphone qui est très importante. La plupart des gens, en fait, chez nous, achètent, certes via le site, mais aussi en ayant un contact humain avec nos équipes, qui sont une trentaine de personnes qui peuvent leur répondre au téléphone. Je crois qu'on va pouvoir encore trouver des moyens de plus en plus fluides d'interaction entre le web et le téléphone, vous voyez, qui permettra de faire une expérience encore meilleure. Et puis, une fois qu'on a dit tout ça, vous savez comme moi que le multicanal, comme on l'appelle aujourd'hui, est devenu la référence et son vidéo, c'est bientôt 15 boutiques. Donc, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a commencé par le e-commerce, mais on revient au vrai commerce, puisque finalement, le contact humain, on ne le remplacera jamais, ça j'en suis certain.
Merci beaucoup, Philippe. Merci. Donc, on voit qu'il reste de la place dans le e-commerce. Alors, à vous de jouer, hein, les entrepreneurs. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine émission.